Bella Ciao, deux ou trois choses que je signale, la chanson. Aujourd'hui, Claire Gima à propos de son album Sorcière.
Il n'y a pas d'arbre dans ma cour, ni de sourire sur le palier. Il y a un chien apprivoisé, assis sur un rayon de jour. Je contemple sans regret, enfermé du haut de ma tour. C'est ce soir que pour toujours, hey, je m'en vais. Oh, je saute dans le tableau de Dali. Sur le dos de l'aigle au-dessus des eaux, je respire l'odeur de la mer, de l'écume, l'orage de l'air. Ses plumes caressent mes doigts, mon corps qui frémit aux éclats. L'oiseau royal plonge, se déploie, hey, je m'en vais. Oh, je saute dans le tableau de Dali. Sur un rocher brûlant, des géantes à tête de fleurs se prélassent, se prennent leur temps, nus dans la vapeur. Je sens le sommeil qui me prend, je m'étends, me fiche de l'heure. Les géantes entonnent leur chant, hey. Ah, et quelques pas de moi sur l'île, une bête immobile, dressée se lèche les babines, un félin tigré aux pupilles, qui me fige dans un réflexe de proie traquée, faible, fragile. Mais je m'élance vers le tigre, hey. Je m'en vais, oh, je saute dans le tableau de Dali.
Dali, de l'album Sorcière de Claire Gima. Claire Gima, bonjour.
Bonjour.
Claire Gima avec deux T au fait.
Oui.
C'est important pour se retrouver sur Internet.
Oui, c'est important pour se retrouver sur Internet, effectivement. C'est ça, avec deux T. Claire Gimat, même, du coup.
Troisième galette audio, Claire Gima. On peut dire premier album. Qu'est-ce que vous privilégiez entre le 3 de la galette audio et le premier album?
Oui, je dirais que c'est un premier album. Avant, j'ai effectivement sorti des EP qui n'ont jamais été distribués, qui étaient des extraits, donc 4 titres, 3 titres pour les sorties de concerts ou pour les programmateurs pour avoir des dates. Et là, c'est vraiment un premier objet vraiment artistique abouti avec les 10 titres.
Une première étape, ça a été le prix Nougaro. Ça remonte à un petit moment, 2011.
Oui, c'est ça, 2011, ouais.
Comment vous en étiez arrivé à aller vous présenter à ce concours, à ce prix?
Ben c'était c'était vraiment une première expérience. Je composais depuis un moment déjà, j'avais quelques chansons. J'étais jeune, quoi, j'avais 20 ans, même pas 20 ans, non. Et du coup, c'était une tentative, mais vraiment, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait de retour. J'étais quand même déjà en train de faire des études de musique, donc j'avais quand même des ambitions dans le domaine artistique, mais... Et du coup, j'ai tenté ce concours sans attente et finalement, ça a débloqué des choses derrière, des concerts, etc.
Le prix Nougaro, c'est avant tout l'écriture, mais en fait, c'est la musique qui a précédé votre parcours.
C'est les deux, oui. J'étais en études de musique Mais j'écrivais déjà depuis un moment et l'écriture a été importante pour moi assez tôt. La lecture, j'ai beaucoup lu aussi, donc j'ai quand même ce côté assez littéraire. Je fais des études aussi d'espagnol et de théâtre.
La musique, il y avait eu un instrument au départ.
Oui, le piano, ouais. C'est ça. Depuis mes 8 ans à peu près, j'ai commencé à faire du piano et j'ai continué pendant plusieurs années.
Avec ces volets-là, on se dit que le théâtre est pas loin.
Oui, le théâtre est pas loin du tout. mes parents sont comédiens déjà, donc j'ai un peu grandi dans ce milieu-là, dans cet univers-là. Et il y avait vraiment ce goût de l'écriture, aussi de la mise en scène. Et je pense que ça se retrouve dans mes chansons qui sont comme des histoires où je raconte des choses avec des personnages, etc. Et je pense qu'on retrouve ce goût-là pour le théâtre.
Pendant longtemps, l'écriture et la musique, c'était deux activités séparées.
Oui.
Et la jonction, elle s'est faite à quel moment ou pourquoi?
Elle s'est faite quand même assez tôt. J'ai dû écrire mes premières chansons, j'avais 14 ans. Et avant ça, je composais déjà au piano. J'ai composé très vite des petites pièces, hein, sans prétention. Mais c'est assez vite, enfant, que j'ai commencé à écrire, à me remémorer ce que j'écrivais, etc. Et pareil, j'écrivais des textes. Et au bout d'un moment, je me suis dit que... Enfin, j'ai découvert la chanson, on va dire, qui n'était pas forcément la musique que je pouvais écouter, la chanson française. Et je me suis dit, c'est une bonne idée pour rassembler ces deux intérêts que j'ai.
C'est pas ce que vous écoutiez. Qu'est-ce que vous écoutiez alors?
Mais j'écoutais des choses plus anglophones. J'écoutais un peu de rap, de la soul, pas mal. Et puis après, des choses assez variées, ce qui allait de musique africaine. En fait, j'écoutais plein de choses différentes, mais pas forcément beaucoup de chansons françaises à ce moment-là.
Rien de la péninsule ibérique?
Ah si, oui, déjà un petit peu, mais c'est venu pas mal après la musique espagnole. Enfin, c'est ma grand-mère est espagnole, donc j'avais quand même un peu cette culture-là, mais cette passion, elle s'est développée au moment où je suis partie à Jerez, un peu plus tard, juste après le bac, et du coup là, je suis partie en Andalousie, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à beaucoup écouter de flamenco.
Avec une forte influence pendant un moment sur cette musique-là.
Oui, pas mal. Ça a été une découverte vraiment intense parce que c'était une musique vraiment privée, quoi. C'était à l'intérieur des familles. C'était pas des concerts. C'était vraiment quelque chose de ritualisé. Donc j'ai assisté à un mariage avec tout le monde qui participe, qui fait les palmas, qui joue, qui chante, qui danse. Et ça m'a complètement transportée. Encore maintenant, je suis assez passionnée par les rituels, par toute cette culture-là que nous, on a moins malheureusement maintenant, mais qui existait.
L'écriture, la musique, et un jour, il y a eu la scène. Un cap pas facile à franchir, ou pas évident, ou c'était pas la motivation, mais il a fallu en passer par là.
C'est vrai que c'était pas la motivation initiale, forcément. Après, j'avais déjà fait du théâtre, donc j'étais déjà allée sur scène. Et donc, comme je dis, j'avais beaucoup vu mes parents sur scène, donc il y avait quelque chose qui était pour moi assez évident. Mais ça n'a pas été forcément évident, non, de trouver qui être sur scène, comment articuler ça. Surtout que moi, c'est des immersions dans des mondes imaginaires, donc ça a été compliqué de savoir comment faire plonger les gens dans cet imaginaire-là aussi, entre les chansons. Ça a été tout ça qui a été à travailler. Mais après, j'ai pas eu de réticence et tout ça, j'ai été vite quand même happée par ça, par l'excitation de la scène, tout ce que ça implique émotionnellement.
Kerjima, on va écouter une autre chanson extraite de l'album Sorcière, bien justement. C'est ce titre-là qui a donné le nom à l'album que l'on écoute.
Cherche la sorcière des sous-bois, celle qui enchante l'hiver. Prends-moi dans tes bras. Un mage et un roi m'ont ôté la voix des roses aux épines pour payer mon crime. Qui est de danser, chanter sans cesse à tue-tête, il paraît que c'est digne d'une diablesse. Mais réduite au silence, je ne suis qu'une ombre qui hante les voix. Qui rôde avec les chats noirs. Et ah ouais. sorcière des sous-bois, celle qui enchante l'hiver, prends-moi dans tes bras. Au fond des forêts, j'ai trouvé la sorcière, bannie, condamnée, femme aux plantes amères. Elle guérissait les maux des hommes, des femmes, des animaux, juste avec des herbes broyées dans de l'eau. Interdite d'onguent, elle n'est qu'une ombre qui hante les bois, qui rôde avec les chats noirs. La sorcière m'a rendu la voix, maintenant comme hier, je chante à tout va. Et comme deux sœurs, nous courons sur les chemins dans les bois, sans s'en faire plus que ça. Entre leurs doigts nous glissons, et s'ils nous attrapent même sur le bûcher, nous chanterons. Et comme deux sœurs nous courons sur les chemins dans les bois, sans s'en faire plus que ça. Entre leurs doigts nous glissons, et s'ils nous attrapent même sur le bûcher, nous chanterons.
Sorcière de Claire Gima, extrait de l'album du même nom. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une des chansons, Claire Gima, qui donne le titre à l'album? Pourquoi celle-là?
Parce que du coup, dans cet album, ça parle beaucoup de femmes, et de femmes qui se sentent parfois un peu à l'étroit, en décalage avec le monde dans lequel elles vivent, et qui ont une envie comme ça d'oser, enfin de changer, quoi, de vivre d'autres expériences, aventures, etc. Et donc les sorcières, c'est une figure féminine émancipatrice avec... c'est des femmes donc qui, soit par leur comportement, leur savoir, leur mode de vie, sont allées contre ce qu'on attend d'elles, quoi, et font peur. Et du coup, il y avait cette idée d'oser sortir un peu des chemins, de pas penser qu'il y a des règles préétablies, et de se lancer dans des choses qui nous font palpiter avec un vrai élan de vie, et pas forcément, ouais, de suivre des normes ou, je sais pas, des choses qu'on a intégrées comme étant ce qu'on devait être dans la vie, ce qu'on devait faire. Voilà.
Pour rendre compte un petit peu de l'album, est-ce que, si on emploie les mots, des bouts de rêve, des courts-métrages ou des courts-métrages même tendance Tim Burton, est-ce qu'on est dans le vrai?
Oui, complètement, c'est ça, parce que c'est des histoires assez visuelles au final, avec beaucoup de décors, de détails sur les paysages, la végétation qui est souvent vivante, un peu bouillonnante comme les personnages. C'est ça, des paysages qui défilent comme des fresques un peu, donc, et des histoires à l'intérieur avec des femmes qui se frayent un chemin là-dedans, donc oui, ça marche bien.
Choisir entre l'irréel, l'onirique, l'imaginaire, vous choisiriez quoi?
Je choisirais l'imaginaire, je pense, parce que dans l'onirique ça correspond bien, mais il y a un côté un petit peu ou qui manque de prise à la terre, quoi. Je vois de suite quelque chose d'assez lunaire, etc. Alors que dans ce que j'écris, il y a quelque chose d'assez terrien aussi, très ancré, avec beaucoup de sensations physiques, de l'essence qui sont en éveil. Et l'imaginaire, c'est quelque chose qui peut être connecté quand même au réel et qui réinvente le réel, etc. Après, j'emploie le mot irréel aussi, mais je me dis que l'imaginaire peut plus être en connexion avec le réel.
Vous nous embarquez dans cet imaginaire, mais comment naissent ces textes pour vous? En vous laissant aller à quoi?
Souvent, soit ce que je vois, par exemple, il y a une chanson donc, qui parle d'un orme, et c'est un orme qui est chez mes parents, donc avec lequel j'ai grandi, un orme tricentenaire. Et donc là, je l'imaginais se déraciner, partir, et j'imagine tout ce qui va avec, l'histoire qui se raconte, cette femme qui le suit, la végétation qui court... Donc là, ça va être une image. Voilà. Parfois, ça peut être une phrase qui me vient, qui est plus rythmique, avec des mots qui sonnent entre eux et qui du coup va m'évoquer un univers dans lequel je vais pouvoir tirer le fil de l'histoire. Ça dépend un peu.
Vous évoquiez tout à l'heure le fait que ce sont des histoires de femmes. C'est évidemment l'axe de l'album. C'est un axe qui est venu comment et est-ce que c'est un axe définitif?
Alors je sais pas s'il est définitif. Il est venu du fait que justement, mais j'écris du coup depuis quand même longtemps. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'écrivais des chansons où en fait je me suis demandé pourquoi est-ce que les héroïnes c'était pas des héroïnes vu que moi je suis une femme et pourquoi est-ce que je racontais que j'avais une histoire d'un libraire. Enfin, et du coup j'ai eu vraiment ce truc de tout d'un coup me sentir plus vraiment concernée par ces chansons parce que je me disais que j'avais aussi envie qu'il y ait des représentations féminines. En plus, on en manque beaucoup. Et moi, en tant que femme, ça me paraissait plus cohérent de d'écrire des histoires de femmes. Et c'est comme ça que c'est venu. Je le vivais vraiment comme ça. Et donc, c'est petit à petit, c'est ça qui s'est passé. Après, il y a beaucoup de chansons à la première personne du singulier. Mais du coup, je suis une femme. Donc, comme c'est moi qui chante, on sent que c'est un personnage féminin. Et est-ce que c'est définitif? Je sais pas du tout. Je sais pas, on verra. C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais en tout cas, là, c'est ce qui me paraissait le plus logique par rapport à moi, là, ce qui m'habitait.
C'est une contribution à tout ce qui se passe autour avec MeToo ou pas?
Ben oui, ça pourrait, sauf que bon, ça précède MeToo. Pareil, il y a eu le livre Sorcière de Mona Chollet qui est sorti. J'avais déjà appelé cet album Sorcière, bon, qui sort que maintenant, mais auquel j'ai réfléchi depuis longtemps. Et du coup, je pense que c'est une époque où on se pose toutes ces questions. Et effectivement, je suis dans ce mouvement comme plein d'autres personnes. Et c'est chouette de se rendre compte de ça. Et donc oui, c'est une contribution, ouais.
Claire Jima, on écoute une autre chanson de l'album. On écoute Tuba des cils.
Un battement de cils qui fait filer le temps, les ombres qui défilent et défilent le printemps. Tuba des cils et je reste cloué. Tuba des cils, mes pensées sont brouillées et je reste immobile. Bientôt je prends racine, mais je m'en fiche car dedans ça remue, c'est vivant. Tuba des cils. L'océan surgit, tuba des cils, il se jette, c'est inouï. Tuba des cils et mon cœur se balance. Tuba des cils se balance en cadence. Et mon corps en émoi qui frémit d'impatience. Du monde je ne vois que des fantômes qui dansent. Tuba des cils et les flammes crépitent. Tuba des cils, furieuses elles envahissent. Se brise éperdument. D'immenses étendues de verdure et de sable, elles courent, elles hurlent, franchissent des montagnes. Le temps d'un battement de cils. Tuba des cils, tuba des cils, les yeux écarquillés. Je ne bats plus des cils, je ne bats plus. des cils, sinon tu disparais.
Tuba des cils de Claire Gima, album Sorcière. Tuba des cils, c'est une chanson, on évoquait tout à l'heure les EP qui n'ont pas été distribués, mais qui étaient donnés à la fin des concerts ou pour les professionnels. Ça a été enregistré, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui sur cet album. Que s'est-il passé?
Mais je pense que je me suis rapprochée d'une musique de manière générale qui me ressemble aussi et qui a fait le point, on va dire, entre mes différentes influences. Et je pense que j'ai trouvé là une manière de m'accompagner qui me correspond et qui correspond à mon univers qui est très justement dans cet imaginaire hors du réel, un peu surnaturel, et du coup avec une musique qui aussi soutient ça. Et une musique qui a, là, pour le tuba des cils, un côté un peu trépidant, à bout de souffle, qui correspond vraiment au texte. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est resserré, quoi, autour de dans ma musique et qui est maintenant pour moi plus cohérent, pareil que pour les textes, en fait.
Au début, il y a eu le piano, que le piano.
Ouais, au début, il y a eu que le piano.
Et puis, il y a eu le quartet.
Ouais.
Un sacré saut.
Oui.
On passe de l'un à l'autre comment et on revient à une autre formule, pourquoi?
Ben du coup là le piano, j'ai eu une envie de jouer avec des gens, je pense, qui a fait que je me suis... Et puis j'étais dans une école de musique où j'ai rencontré des musiciens avec lesquels j'ai eu envie de jouer, donc le quartet ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'influences, c'était plus de jazz, d'autres influences qu'eux, ils ont amené dans le projet, et c'était génial, on partageait les arrangements, etc. Mais du coup, il y avait des choses dans lesquelles je me reconnaissais pas autant que maintenant, où du coup, je suis revenue à une formule solo, avec des machines, l'ordinateur, où j'ai pu maîtriser, j'ai appris vraiment à maîtriser les arrangements, et aller au bout vraiment de ma démarche. Et donc maintenant, je vais vraiment le plus au bout possible, et puis là, sur l'album, il y a Arthur Guyard qui a participé aux arrangements. Mais vraiment, enfin voilà, ça a été quelque chose de fait à deux, mais que je maîtrise maintenant beaucoup plus, donc j'ai l'impression d'arriver à une forme qui me ressemble plus qu'avant.
Complètement autonome, en fait.
Oui, c'est ça.
Et sur scène, ça donne quoi, si l'on peut parler de scène, par les temps qui courent, mais ça va donner quoi?
Donc ça donne un solo qui tourne déjà, puisque les chansons de l'album, du coup, je les jouais déjà en solo, donc avec des machines et au clavier. Et avec un solo assez immersif, avec des nappes, des atmosphères, des textes du coup aussi de Fernando Pessoa que je disais au milieu. Et là, j'ai monté une formule en trio, donc avec deux femmes, une batteuse et une violoncelliste, et qui chantent toutes les deux les chœurs qui sont présents sur l'album. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir trois femmes comme ça, et comme un espèce de cri commun, de chant commun, pour parler de toutes ces héroïnes qui sont dans mes chansons.
Difficile de parler de l'album et de ne pas évoquer le produit lui-même, la pochette. Racontez-nous un petit peu cet album.
Oui, du coup, c'était... Bah, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un objet physique déjà qui puisse rester, être une continuité de l'imaginaire. Donc l'idée, c'est que bah, la pochette, c'est un plongeon dans un espèce de trou au milieu du Nil qui est comme un passage vers l'imaginaire pour moi. Et à l'intérieur de cette pochette, du coup, il y a plein de cartes qui sont des cartes postales, et avec une chanson, enfin un visuel par chanson. Et mis bout à bout, les visuels forment comme un puzzle qui font comme un seul imaginaire qui est à l'intérieur de ce trou noir quelque part par lequel on passe dans la pochette, quoi. Voilà.
Ça a été le dessin, la réalisation, c'est dû à qui? Ou comment c'est né?
C'est né de ma tête, de mon envie, et ça a été dur à réaliser et à trouver j'ai eu des difficultés à trouver les personnes avec qui collaborer pour ça, parce que c'était pas évident en fait de faire ce visuel découpé en plusieurs parties avec des photos, c'est du collage. Et donc ça a été plusieurs personnes au final qui ont participé. Donc il y a eu Michaela Filzi qui a fait les photos, et après en fait j'ai moi-même, pendant le dernier confinement, je me suis formée à Photoshop, et du coup j'ai travaillé avec un autre graphiste sur les visuels de la pochette, donc c'est Jean Jadot. Les visuels donc de l'intérieur de la pochette, et la pochette c'est donc François Villos qui a retravaillé un visuel à l'origine que j'avais fait moi. Mais donc pareil que sur la musique, en fait j'ai essayé vraiment d'aller le plus au bout possible de ma démarche, et donc j'ai tout fait, les collages, etc. Et après, ça a été revu par des professionnels pour créer vraiment un objet qui soit aussi artistique. Et,
voilà. Vouloir tout maîtriser, c'est important.
C'était important là. Je ne sais pas si ça le sera toujours, mais là, j'avais vraiment envie que bah, ça me ressemble le plus possible. Et je savais ce que je voulais en fait. Pour moi, c'était tout était cohérent, tout était un prolongement de tout. Et comme il y a la musique, les textes, les visuels, c'est difficile de confier ça à des gens qui finalement n'ont pas la vision globale du projet. Et du coup, j'avais vraiment eu la sensation que, ouais, que j'avais besoin d'aller dans chaque domaine. D'essayer d'aller le plus loin possible et après de confier aux gens qui savent vraiment faire, mais que la démarche soit claire pour les gens qui reçoivent la mission, quoi.
Il y a un clip sur la chanson d'Ali, cohérent avec le contenu de l'album, avec la pochette de l'album. Là, c'est pas vous qui l'avez fait quand même.
Non, c'est pas moi. Mais bon, il y avait quand même, comment on appelle ça, un cahier de charge assez, assez précis. Mais oui, c'est Mira Ruido, qui est un artiste espagnol surréaliste, qui fait aussi du collage, du coup, digital, en vidéo. Et c'est... moi, j'étais vraiment... j'adore son travail. Donc, je l'avais contacté il y a déjà un an, même plus. Et donc, c'est lui qui a réalisé le clip de Dali. Effectivement, il a une patte. Mais pour le coup, je suis vraiment allée le chercher parce qu'il faisait ce que j'avais envie que ce soit. Donc, effectivement, ça s'est fait super facilement. Et puis, c'est un grand... Il a beaucoup d'expérience. Il a travaillé avec des grands artistes, etc. C'était assez facile comme collaboration.
Claire Gima, on va se séparer en écoutant une autre chanson de l'album, Dans le noir. C'est l'occasion d'aller faire un tour du côté de Fernando Pessoa. C'est pas l'Espagne, c'est le Portugal. C'est marquant pour vous, Pessoa, et ce qu'il écrit correspond tout à fait à ce que vous faites.
Oui, pour l'album Dans le noir, c'était assez... Enfin, pour le spectacle Dans le noir, du coup, duquel sont issues pas mal de chansons de l'album, c'était vraiment... ça correspondait vraiment beaucoup. C'est le livre de l'intranquillité, en fait, et du coup, c'est beaucoup de questionnements intérieurs. Bon, après, c'est un peu assez torturé comme écriture, mais il se pose plein de questions, et il y a vraiment ce rapport au rêve et cette idée de s'échapper du réel par le rêve. Mais du coup, est-ce que c'est pas un refuge? Il dit à un moment, mes rêves sont un refuge stupide, comme un parapluie pour se protéger de la foudre. Il y a vraiment ce truc de se dire, ben, en fait, oui, le rêve, c'est un espace pour vivre quelque chose qui nous intéresse vraiment, mais est-ce que c'est vraiment la vie qui est... Enfin, est-ce que la vie est possible dans le rêve, ou est-ce qu'il ne faut pas faire un retour au réel à un moment? Mais moi, j'ai vraiment la sensation que cet imaginaire-là, c'est un espace pour réimaginer, réinventer quoi, notre réel. Donc, c'est un endroit où on peut expérimenter pour ensuite réinjecter dans nos vies. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
On l'écoute, Claire Gima, merci.
Merci beaucoup.
Depuis quelque temps, je me suis tapis dans l'ombre. Quelque temps, dans l'ombre, je n'en suis plus sortie. Si vous voulez savoir, j'affûtais mon regard. Tapis au creux de ma chambre, j'affûte mon regard dans le noir. Au creux de ma chambre, mon regard dans le noir. Essayez donc pour voir, tapissez-vous hors scène, poussez-vous de la lumière pour ne pas qu'on puisse nous voir dans le noir. Affûtons nos regards, essayez donc pour voir de derrière le rideau, peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Thank you. regard de derrière. Peut-être qu'on pourra se voir dans le noir. Je songe parfois combien il me plairait, unifiant mes rêves, de me créer une vie seconde et ininterrompue, où je passerai des jours entiers avec des convives imaginaires, des gens créés de toutes pièces, et où je vivrai, souffrirai, jouirai de cette vie fictive. Dans ce monde, il m'arriverait des malheurs, de grandes joies fondraient sur moi, rien de tout cela ne serait réel. Mais tout y aurait une logique autonome et superbe, tout obéirait à un rythme de fausseté voluptueuse. Tout se passerait dans une cité, faite de mon âme même, qui s'en irait se perdre sur un quai, le long d'une baie paisible, bien loin au fond de moi, bien loin. Et tout cela net, inévitable, comme dans la vie extérieure. Pour voir hors scène, ah, fut ton regard de derrière. Peut-être qu'on pourra se voir dans le noir.
Bella Ciao, c'est toutes les semaines,
même heure, même fréquence,
et sur internet, toujours Bella Ciao. blogspot.fr.
René Pagès,
Yves Regour,
à la semaine prochaine, peut-être.